Je propose que nous commençons par lire quelques versets de l'épître de Jude, la dernière épître dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude est à partir du verset 1. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu de Père et conservés en Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans les liens éternels, sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Comme Sodome et Gomorre et les villes d'alentour s'étant abandonnées à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michel, l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nués sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé de ceux-ci en disant « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont préférées contre lui jusqu'ici. » Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous a laissé 21 épîtres. Le Saint-Esprit nous a laissé 21 épîtres dans le Nouveau Testament. Et ces épîtres peuvent être divisées en trois groupes. Il y a d'abord ces lettres qui s'adressent à des rassemblements par le Saint-Esprit pour leur déployer la doctrine, seulement la doctrine. Ce sont les deux épîtres aux Romains et l'épître aux Éphésiens. Dans ces épîtres, nous est présenté dans les Romains le salut, la justification de l'homme seul par la foi en Jésus-Christ. Et les conséquences, c'est là que le contenu de cet épître qui nous parle de l'homme ici-bas sur la terre comme pécheur, mais qui parle sans, par la foi en le sang du Seigneur Jésus, est éternellement justifié, à paix avec Dieu, et sait qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui a cru au Seigneur Jésus. Et les conséquences. Dans cet épître, nous avons donc seulement la doctrine, aussi en trois chapitres, la doctrine concernant le peuple d'Israël, au futur, mais il n'y a pas une seule exhortation exhortation qui se réfère à un mal existant dans cette assemblée. Il y a des exhortations, bien entendu, mais ces exhortations sont d'une sorte générale. Ils s'appliquent à chaque chrétien parce que nous tous portons la chair avec nous. Et c'est pourquoi nous avons tous toujours besoin des exhortations d'une manière générale. La deuxième est l'épître aux Éphésiens. L'Éphésiens ne nous montre pas l'homme ici-bas sur la terre, mais en Christ, dans les lieux célestes. C'est la place ultime, la place plus haute qu'un chrétien peut jouir, bien que chaque chrétien, par la grâce de Dieu, possède les choses. Mais l'apôtre adresse cet épître aux Éphésiens pour leur faire jouir ces bénédictions. C'est donc aussi l'assemblée qui ne joue presque aucun rôle dans l'épître aux Romains, mais dans les Éphésiens, nous avons le déploiement le plus profond de l'assemblée comme corps du Christ qui est glorifié à la droite de Dieu, assis comme chef de toutes choses et aussi de l'assemblée. Et aussi encore dans cette assemblée, il y a des exhortations à la fin. Mais il ne s'agit pas des exhortations qui se réfèrent à un mal ou un manquement dans ce rassemblement. Il s'agit des exhortations, comme je l'ai dit dans le cas des Romains, qui s'appliquent à chaque chrétien parce qu'il a toujours la chair, qui est toujours là, qui n'a pas droit d'exister. C'est très important de le voir, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, avec le vieil homme qui est mort aussi, trouvé dans les Romains et dans les Éphésiens, nous avons crucifié notre chair, elle est morte pour Dieu, elle doit être morte pour nous aussi. Deuxièmement, il y a des épîtres, c'est la plupart des épîtres aux assemblées, qui contiennent des précieux enseignements, très précieux enseignements, mais qui ont comme base toujours un manquement dans l'assemblée. Et le cas le plus spécial, c'est les Corinthiens, les deux épîtres aux Corinthiens, où nous trouvons tellement d'instructions concernant l'assemblée. L'épître est adressé à l'assemblée de Dieu à Corinthe. Mais chaque enseignement que nous trouvons dans cette épître, dans la première épître aux Corinthiens, a pour raison un grave manquement dans le comportement de l'assemblée. C'est très important de le voir. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement spirituel. Les Corinthiens sont appelés des chrétiens charnels, et ça égale dans sa signification l'état de bébé. Un chrétien charnel n'a pas grandi dans la foi, il n'a pas fait des progrès de plus en plus ressemblant le Seigneur Jésus. Ça, c'est la croissance spirituelle. Pas la connaissance dans la tête, bien entendu, elle est très importante. Mais la connaissance seule nous gonfle seulement, nous enfle. Mais c'est la connaissance qui nous rapproche du Seigneur Jésus, et ça manquait dans les Corinthiens. Il devait dire « Vous êtes charnel » dans le troisième chapitre. Il mentionne ce mystère qui est déployé dans les épîtres aux Éphésiens. Mais il peut seulement mentionner dans le chapitre 2, pas déployé. Ils étaient incapables, bien que le Saint-Esprit nous donne beaucoup d'instructions très précieuses concernant la table du Seigneur. Mais c'était parce qu'ils ne connaissaient pas comment se comporter concernant la scène. Mais c'est seulement parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter pendant la scène, etc., etc. Les Galates, c'est la même chose. Il y avait le danger de retourner vers la loi d'Israël qui avait trouvé sa fin à la croix du Seigneur Jésus. Colossiens, de même, la loi était une chose, mais aussi la philosophie, les éléments de ce monde qui conduisaient les Colossiens à ne pas tenir ferme la tête du Seigneur Jésus. Et on pourrait continuer aussi les Thessaloniciens, ils avaient manque d'instruction concernant la venue du Seigneur, ou les venues du Seigneur, n'est-ce pas ? La venue, sa venue pour notre enlèvement, et aussi sa venue en gloire pour commencer le millénium, le règne de 1000 ans ici-bas sur cette terre avec nous. Et troisièmement, il y a des épîtres qui parlent non du salut, bien qu'ils le présupposent, qui ne parlent pas de notre conduite ici-bas sur la terre comme chrétiens, comme ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, mais qui nous avertissent des événements et de développements futurs, à cette époque-là, futurs, maintenant présents. C'est la deuxième épître à Timothée, c'est la deuxième épître de Pierre, et aussi, surtout, cette épître de Jude, qui parle des développements qui étaient déjà en train de se montrer, mais dont le sort sera dans un temps plus beaucoup plus tard, et c'est notre temps présent. Notre temps présent. Et je dis que notre temps présent est un temps que nous tous reconnaissons probablement, qui est caractérisé par des développements, spécialement dans les pays où la chrétienté, le christianisme, a régné pendant presque 2000 ans, l'Europe. C'est la région de ce monde où le christianisme a été connu pendant le plus longtemps. Et c'est là où, selon l'épître de la deuxième épître aux Thessaloniciens, l'apostasie se développera, se formera. Et l'apostasie, ça veut dire que ceux qui ont connu, je ne dis pas des croyants, et là, il en est de même déjà ici, qui ont connu la foi chrétienne, se détournent et le condamnent comme quelque chose qui était fausse. Ça, c'est l'apostasie. Je suis convaincu personnellement qu'après, et cette apostasie se montrera dans son plein essor après l'enlèvement des chrétiens. Parce que ça, c'est dit. C'est au même temps où l'Antichrist sera là, et que même il y a quelque chose et aussi une personne qui retient ce développement. Et c'est quelque chose, c'est l'Assemblée, la foi chrétienne et la personne et le Saint-Esprit qui habite dans l'Assemblée. Au moment où l'Assemblée sera, et l'Assemblée, c'est toujours, je le répète seulement, c'est toujours la somme totale de tous les vrais chrétiens. C'est ça, ça, c'est l'Assemblée. L'homme peut introduire toutes sortes de distinctions que Dieu ne reconnaît pas du tout et qui n'ont aucune valeur. Il y a seulement une assemblée, le corps de Christ, consistant seulement de tous les vrais croyants qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur et qui ont été baptisés par le Saint-Esprit et par là forment ce corps unique du Seigneur dont il est la tête. Après l'enlèvement de tous les vrais chrétiens, il restera ici un corps, une substance avec une forme de religion chrétienne, mais sans aucun vrai chrétien. Et ces chrétiens nominaux, après l'enlèvement, se distancieront immédiatement de tout ce qui a été chrétien, parce qu'il n'y a plus de vrais chrétiens. Ça, c'est l'apostasie. Je suis convaincu qu'après l'enlèvement, peu de temps après, il n'y aura aucun signe du christianisme ici en Europe. Ils détruiront tout pour préparer le chemin pour cette bête qui régnera Europe et qui sera adorée au lieu du Seigneur Jésus. Jude, dans cet épître, c'est un tableau terrible, n'est-ce pas? Un tableau terrible. Et Jude ne parle pas de ce temps après l'enlèvement, mais de ce temps qui commençait déjà à cette époque, comme Jean dit par exemple, « Mes enfants, nous sommes dans la dernière heure. » La dernière heure. Après cette heure, il y aura seulement ce règne de la bête ici et de l'Antichrist en Israël, liés tous les deux très étroitement, et la tribulation qui est liée avec tous ces maux, et après l'apparition du Seigneur en gloire et son règne de 1000 ans en justice et en paix, et après l'éternité. Donc c'est vraiment la dernière heure de la grâce dans laquelle nous nous trouvons. Et Satan est occupé de détruire ou au moins de déranger tout ce qui est à la gloire de Dieu. Et Jude parle de ces temps. Et c'est pourquoi on l'a probablement ressenti. Cette épître est une terrible épître, d'un côté. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous l'a laissé. C'est le Saint-Esprit qui a dicté à Jude, on le verra, de décrire bien qu'il ne voulait pas. C'est naturellement pas sa propre volonté qui se mettait contre la volonté du Seigneur, non. Mais il avait à cœur de faire toute autre chose, n'est-ce pas ? D'écrire du commun salut, les précieuses vérités que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Mais le Saint-Esprit lui a dit non. Il est nécessaire que tu écrives concernant ces développements terribles qui auront place au milieu des chrétiens, des vrais chrétiens, ces bien-aimés, et qui commençaient déjà là et qui trouveront leur dernière phase à l'apparition du Seigneur Jésus. D'un côté, c'est une triste épître. Mais il n'y a presque pas une autre épître qui décrive la situation présente dans laquelle nous nous trouvons extérieurement. La parole ne dit pas que nous soyons ces pécheurs dont il fait différentes descriptions. Mais il nous dit, vous êtes entourés de ce monde. Et même dans votre milieu peuvent se glisser des personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Pourquoi pas? Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ça, c'est la preuve. Pas vrai chrétien. Chrétien de nom. Mais ça ne suffit pas pour appartir à l'assemblée de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, c'est une remarque encore en avance, les descriptions du caractère et de la fin de ceux qui se sont glissés déjà là et qui se glissent de plus en plus. Et naturellement, on ne doit pas seulement limiter ces choses à notre milieu, pour ainsi dire. C'est parler de toute la chrétienté, les églises, les communautés, etc. Il s'agit ici, en disant ceux, clairement des incrédules, qui n'ont aucun droit d'être appelés vraiment chrétiens. Et leur sort est la condamnation éternelle. C'est clair, il est mentionné plusieurs fois. Mais on ne peut pas dire, mais alors s'il s'agit dans ces cas seulement des incrédules, cela ne nous a rien à dire. C'est un danger, n'est-ce pas? Des choses qui s'appliquent à des incrédules, ils ne nous ont rien à dire. Et c'est une faute. C'est une faute. La sort des incrédules et de leur acte est clairement écrite. Mais comme chrétiens, nous ne sommes pas dans le danger d'être perdus. Comme vrais chrétiens, nés de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit. Pas de condamnation, c'est absolument clair. Mais j'ai dit déjà que notre chair est là. Et la chair d'un chrétien, cette ancienne nature de pécheur, qui est dans chaque chrétien, qui n'a de côté aucune droit d'exister, ou de, disons, pas d'exister, mais plutôt de se faire valoir. C'est la même que dans les incrédules. Et nous connaissons, j'espère, tous l'activité et la puissance de la chair. Et de ce point de vue, ces exhortations qui concernent, ou ces descriptions qui concernent actuellement les incrédules, ont aussi une voix pour les chrétiens, parce qu'il a la chair. Et la chair d'un chrétien est capable de faire toutes les choses que la chair dans un incrédule. Ça, c'est le problème. Et c'est pourquoi cette épître, une triste épître, mais qui nous présente quand même au début et à la fin, nous n'avons pas encore lu, j'espère le faire demain, Dieu voulant, le Seigneur nous a présenté. C'est lui seul, qui peut nous aider, qui peut nous réjouir, et même au milieu des circonstances qui nous attristeraient et qui peuvent nous faire, qui peuvent nous décourager. Mais ne soyons pas découragés, comme Jude ne l'était pas non plus. Cette épître commence par l'introduction, Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. Il y a dans le Nouveau Testament deux paires de frères qui s'appellent Jude et Jacques. L'une de ces paires c'était des frères du Seigneur Jésus. Dans Matthieu 13, verset 55, il est dit, ils ont tous les frères probablement du Seigneur Jésus selon la chair. Ils étaient démis, fils de Joseph et Marie, après la naissance du Seigneur Jésus, le premier-né. Et l'autre couple se trouve parmi les 12 apôtres. Il y avait Jude Iscariote, mais ce n'est pas celui-ci, et il y avait Jacques, le frère de Jean, qui est d'André, qui était aussi un apôtre. Donc, qui est ce Jude? Il y a quelques-uns qui disent c'était le frère de Jacques, l'apôtre, et je ne crois pas, parce qu'il parle des apôtres comme des personnes détachées. Vous avez entendu par vos apôtres. Il ne se compte pas donc lui-même parmi les apôtres. Donc il reste Jude, le frère de Jacques. Et le Jacques que nous trouvons dans les actes et aussi dans les épîtres aussi dans ça, dans la propre épître de Jacques, c'est le frère du Seigneur. L'apôtre Jacques fut tué déjà en acte 12, selon acte 12. Hérode a tué Jacques l'apôtre. Donc il est mort très tôt, au début de l'assemblée en Jérusalem. Hérode l'a tué. Et immédiatement après, on ne peut pas voir toutes ces références. Immédiatement après sa mort, Jacques est mentionné de nouveau. Et c'était le frère du Seigneur. Pas un apôtre. Et quand Paul était converti, il allait à Jérusalem, Galates 1 nous le dit, et il visitait les apôtres et il voyait Jacques, le frère du Seigneur. Il écrit ça. Et Jacques, ce frère du Seigneur, était un pilier, une colonne de soutien dans l'assemblée de Jérusalem, dans la deuxième moitié des actes. Et il est l'auteur de l'épître de Jacques. Mais tous les deux, ni Jude ni Jacques, mentionnent le fait qu'ils étaient des frères du Seigneur. Ils disent tous les deux esclaves de Jésus. Quelle humilité, quelle soumission. Ils ne se vantaient pas du tout de cet honneur, on pourrait dire, n'est-ce pas, d'être frère du Seigneur. Rien, esclave. Quel esprit d'humilité et de vrai, quel signe aussi. Des vrais disciples du Seigneur. Pendant sa vie, il ne croyait pas. Jean 7 en parle. Mais dans les actes au chapitre 1, nous trouvons tous les frères du Seigneur qui ne sont pas mentionnés par nom, mais ses frères. Et on peut conclure qu'il s'agissait de tous ses frères et Marie, sa mère. La dernière chose que nous lisons de Marie, la mère du Seigneur, pas la mère de Dieu, est qu'elle est en sur ses genoux, pour ainsi dire, dans la prière avec les autres croyants. Ça, c'est le tableau que nous fait la Bible, la parole de Dieu de cette femme élue, c'est clair, pour donner naissance au Sauveur. Mais elle était une femme comme toutes les autres. Elle avait besoin d'être sauvée comme toutes les autres. Et la dernière fois, pour ainsi dire, il n'est pas mentionné, mais il est dit qu'ils étaient en prière. Alors, on la trouve à genoux devant son fils qui est aussi son Seigneur. Et on voit, chers amis, combien dans les églises, vous connaissez, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Là, on s'est éloigné de la parole en faisant de cette femme Marie une presque une déesse, n'est-ce pas? La mère de Dieu. Elle est la mère de l'homme, mais pas la mère de Dieu. Mais c'est l'intelligence humaine qui pense celui qui est homme et Dieu en même personne, et sa mère doit être la mère de Dieu. Mais quelle faute! Jude, esclave de Jésus, de Jésus-Christ. Et frère de Jacques, ça c'est le Jacques dont on vient de parler, aux appelés. Maintenant, il dit à qui cette épître est adressée, est appelée, bien-aimée en Dieu le Père. Nous sommes tous appelés. L'appel n'est pas la préconnaissance de Dieu, ce n'est pas cette élection. L'appel est par l'Évangile. Dieu nous appelle par l'Évangile. Il nous a préconnus, il nous a préélus dès avant la fondation du monde, mais il nous a appelés au moment où nous avons entendu l'Évangile, peut-être plusieurs fois. Mais une fois que nous avons, quand nous avons donné suite à cette voix du bon berger, cette voix d'amour de Dieu, nous sommes maintenant des appelés de Dieu. Quelle place élevée, quelle place merveilleuse que nous pouvons avoir, prendre en étant des appelés de Dieu. Mais non seulement cela, Il s'agit aussi que nous sommes bien aimés en Dieu le Père. C'est, sauf erreur, le seul passage où nous sommes appelés bien aimés en Dieu. Normalement, c'est, on dirait, bien aimé de Dieu. Mais ici, il est dit bien aimé en Dieu. En principe, c'est la même chose. Et soyons plus non seulement convaincus, mais dans le bien de cette connaissance que nous sommes des aimés, bien-aimés de Dieu. Mais ici, cette relation, ce n'est pas Dieu et nous, mais c'est nous en Dieu. L'amour de Dieu n'est pas à la distance. Ça, c'est le sens de cette expression. L'amour de Dieu nous a, pour ainsi dire, englobés dans son propre être, bien-aimé en Dieu le Père. C'est notre place. Et quand on est attristé, quand on se sent seul, abandonné, on peut toujours se rappeler ce fait merveilleux que nous sommes des appelés et de bien-aimés en Dieu le Père et aussi conservés en Jésus-Christ. Dieu n'a pas seulement nous appelés, il nous aime continuellement jusque dans toute l'éternité, mais ici-bas sur la terre, nous sommes aussi des conservés. Mais cette conservation, ce fait que nous soyons gardés dans le Seigneur Jésus, ici, en Dieu, une chose, mais en Christ est une autre chose, n'est-ce pas? En Christ, nous sommes tous faits agréables en Christ. Et Dieu, quand Dieu nous regarde, c'est important, c'est précieux. Il voit d'abord le Seigneur Jésus et après moi, parce que je suis en Christ. Et aussi, ce fait que nous soyons gardés en Christ veut dire que nous sommes considérés de la part de Dieu comme ceux qui sont positionnellement et éternellement en Christ. Mais la question est-ce que je le suis pratiquement? Paul écrit dans une de ses épîtres, et celle aux Philippiens dans le troisième chapitre, qu'il désirait être trouvé en Christ. C'est lui seul qui nous explique ce que cela veut dire d'être en Christ. C'est-à-dire, Dieu nous a placés dans son bien-aimé. Il voit son bien-aimé qu'il a glorifié à la croix. Et il dit que chacun qui croit au Seigneur Jésus est même par cela seul par notre foi, placé, pour ainsi dire, dans le Seigneur Jésus. Sa gloire, la gloire de sa personne nous entoure. C'est notre position. Est-ce que nous la connaissons? Mais ici, ce n'est pas la position, c'est la conservation. Le fait que nous soyons gardés dans cette position en Christ. Et c'est pourquoi Paul écrit, « Je veux être trouvé en Christ. » C'est la pratique. Où suis-je? Où serais-je trouvé quand quelqu'un me cherchait? Quand quelqu'un cherchait Paul, on pourrait dire, tu le trouves en Christ. C'est beau, hein? Très beau. Et ici, il est dit que Dieu fait tout pour nous garder. Mais dans la voie de la foi, il n'y a rien d'automatique. Il n'y a pas de chose automatique. Pierre dit, Dieu vous garde par son pouvoir. Mais il était dit aussi, vous êtes gardés par votre foi. Ces deux choses viennent toujours ensemble. C'est pourquoi il est nécessaire de se laisser garder. C'est à moi. De se laisser conserver, garder dans cette merveilleuse position. Non, pas dans cette position qui est, on ne peut pas perdre, mais dans la jouissance et dans la pratique de cette position. Dieu le fait, vous êtes gardés. Mais si on a un animal dans une cage et la porte est ouverte, elle s'enfuit. Il s'enfuit. Nous, on veut le garder, mais on ne peut pas. On peut mettre les enfants dans une chambre. Ma mère l'a fait une fois, n'est-ce pas, quand elle devait s'en aller. Elle nous a enfermés dans l'appartement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des draps, on les a fait des nœuds ensemble, on s'est laissé tomber par la fenêtre, n'est-ce pas? Elle voulait nous garder. Mais il est toujours nécessaire de se laisser garder. Ça, c'est le point. Laissons-nous garder et conserver en Christ. Ça, c'est notre position sûre. Au moment où nous l'abandonnons en pratique, nous sommes en grand danger. Nous sommes déjà en danger par la pensée même. Conservez en Jésus-Christ que la miséricorde, maintenant comme ses désirs suivent, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Ce sont des choses très pratiques. La miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. On en pense peu. Mais c'était la miséricorde de Dieu, selon Tite 3, qui nous a sauvés. Et c'est la miséricorde de Dieu qui s'occupe constamment de nous. Son amour, c'est son amour. La miséricorde est l'amour de Dieu. Mais l'amour dans des circonstances qui nous trouvent comme des misérables. Et alors, nous, ici, fondamentalement, la miséricorde de Dieu nous a trouvés comme pécheurs et nous a cherchés et trouvés. Mais ici, il s'agit des croyants auxquels, pas l'apôtre, mais le frère du Seigneur Jésus, Jude, souhaite la miséricorde de Dieu. Comment, de nouveau, la miséricorde de Dieu, nous ne pouvons pas influencer. Mais il ne leur exprime pas le désir que Dieu soit miséricordieux, mais qu'ils s'en rendent compte que cette miséricorde est là et est toujours là. Et il en est de même avec la paix et la grâce la paix et l'amour. Il ne s'agit pas de la paix avec Dieu. Dieu nous l'a donné une fois pour toutes, mais c'est la paix dans nos cœurs. C'est une chose, dans une prière hier soir, un frère priait que la paix de Dieu conserve nos cœurs. Nous avons paix avec Dieu, à base de notre foi en Christ. Tous nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes justifiés devant Dieu et nous avons maintenant paix avec Dieu. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous. Entre nous comme ex-pécheurs et Dieu. Mais la paix de Dieu qui peut garder nos cœurs dans la paix, c'est une autre chose. C'est la paix dans notre vie pratique. Paul en parle quand il exhorte les Philippiens pour faire connaître leur désir avec action de grâce et avec supplication devant Dieu. Et il ne dit pas que toutes leurs prières soient exaucées, mais il dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, garde vos cœurs en Christ Jésus, c'est ça. Et l'amour, c'est la même chose. L'amour de Dieu, c'est une chose qui nous n'avons pas mérité. Et nous en jouissons, nous pouvons en jouir. Mais il désire que cet amour soit un amour réciproque, que non seulement Dieu nous aime, qu'il fait ce qu'il fait, mais que nous aimions Dieu et nos frères et sœurs. Ça, c'est pourquoi il dit que l'amour de Dieu vous soit multiplié. Bien-aimé, verset 3, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. C'est ici un verset très intéressant, généralement, parce qu'il nous montre la différence entre la volonté d'un chrétien de faire quelque chose de bon et la volonté de Dieu qui dit « mais pas maintenant ». La pensée de faire quelque chose de bon pour le Seigneur n'est pas le signe que c'est sa volonté, parce que c'est votre... Et c'est ici exactement. Jude avait à cœur d'écrire au saint une épître dans laquelle il voulait s'occuper de notre commun salut. C'est Romains et Éphésiens, la justification individuelle et l'assemblée et toutes ces bénédictions en commun. Ça, c'est le commun salut. C'est la vérité du christianisme, la vérité qui nous a arrachés de ce monde et nous a unis avec le Seigneur Jésus. C'était un désir très recommandable et il avait à cœur de le faire. Et le Saint-Esprit lui dit, je dis un peu simplement, « Non, Jude, pas maintenant. Maintenant, tu as besoin d'écrire tout autre chose. » Ça nous montre que ça nous laisse aussi regarder un peu, jeter un petit regard dans la question de l'inspiration, n'est-ce pas? Pierre écrit dans son deuxième épître, au premier chapitre, que la prophétie, on peut dire, sous toute la parole de Dieu, n'a pas trouvé son origine dans la volonté de l'homme. Ici, on a la volonté de l'homme. C'était une bonne intention, mais par l'Esprit de Dieu qui a dirigé les hommes de Dieu pour écrire des choses que le Saint-Esprit voulait. C'est très important de voir ici que tous les écrits du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament n'ont pas été écrits par la volonté des auteurs, mais par le Saint-Esprit qui les a parfois presque forcés à écrire ce que l'Esprit voulait. On a des très drôles idées concernant l'inspiration, n'est-ce pas? C'était ni un dicté, c'était ni la volonté de l'homme. C'était les hommes de Dieu qui ont écrit, étaient des instruments de Dieu dirigés par le Saint-Esprit. Et par cela, en 1 Corinthiens 2, il est dit, non par des paroles enseignées par la sagesse de l'homme, mais par des paroles enseignées par l'Esprit. Ça veut dire donc que même les paroles distinctes étaient données par l'Esprit. Donc, seulement par cela, nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu, un document dont nous pouvons dire c'est vraiment la parole de Dieu, sans erreur et sans faute. Quand je vous ai de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé par le Saint-Esprit dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Le Saint-Esprit lui disait, il est nécessaire d'informer des chrétiens de ces choses dont on vient de parler au début de cette réunion. C'était les enseigner et les exhorter pour être en mesure de combattre pour la foi. Normalement, il est toujours dit que nous avons besoin de garder la foi, garder le bon dépôt. Ça, c'est la première chose, de la garder. Mais quand il y a de l'activité inimique, quand il y a de l'activité de détruire et de nous arracher cette vérité, il ne suffit pas de garder, il suffit de le défendre. Et il est nécessaire de le défendre. Et c'est ici la chose. Et chers amis, dans notre temps dont on vient de parler, dans la grande chrétienté, vous le trouvez, même parmi beaucoup de chrétiens, de vrais chrétiens, qui sont dans les différents milieux, vous ne trouvez presque plus de livres qui tiennent ferme l'inspiration verbale de la parole, qui tiennent ferme toutes les vérités, pas seulement une ou deux ou trois, et en ajoutant d'autres choses, qui tiennent ferme toute la vérité de la parole, et spécialement du foi chrétien individuel dans les Romains, et collectif et corporatif dans les Éphésiens. Et ça, ils veulent nous arracher ça. Quand on lit toute cette littérature, on est en grand danger que la vérité nous soit arrachée. Et à la fin, mais les autres pensent comme ça, les autres comme ça. Et tout d'un coup, on se trouve hors de la parole de Dieu. Pas seulement tenir ferme, mais combattre. Mais cette expression combattre, c'est aussi une expression très intéressante, parce que dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup de passages où il est dit où nous sommes exhortés de combattre pour la vérité. Et quand on regarde les mots de près, on trouve deux différents sens. L'un sens est de faire de la guerre, de faire vraiment un combat. La guerre. Nous avons les armes pour ce combat, par exemple en Éphésiens 6, n'est-ce pas, où il s'agit du combat contre Satan. Et les armes, on les trouve, les six armes plus la prière. Mais ici, l'autre côté, le combat est souvent, très souvent, et aussi ici, pas un combat, parce qu'un chrétien n'a pas besoin et n'est pas permis de combattre des personnes. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances sataniques. Là, il faut avoir spécialement la plus importante arme, c'est la parole. C'est l'épée de l'esprit. Et sans la connaissance de manier cette arme, c'est-à-dire sans la connaissance de la parole, je ne peux pas combattre le bon combat. Et le Seigneur nous a montré, quand il était dans le désert, et Satan voulait le attaquer par ses séductions, trois fois, il est écrit. Ça, c'est l'arme de l'esprit. Ça, c'est l'épée de l'esprit qui seul peut faire taire Satan. Mais pour le pouvoir manier, on doit le connaître, n'est-ce pas? La deuxième signification, qui est beaucoup plus répandue dans le Nouveau Testament, est la signification, je dirais, sportive. Le mot ici n'est pas le mot pour faire la guerre contre quelqu'un, mais d'être dans un concours du sport. Paul et aussi Jude, par ses expressions, ne désirent nullement nous intéresser pour le sport, pour une chose. Mais il prend quelque chose comme aujourd'hui que chacun connaît. Chacun connaît, par exemple, dans le football, combien d'énergie les joueurs mettent pour gagner, combien de restrictions ils se soumettent pour être en bonne forme, à combien de choses ils renoncent pour être en forme pour le combat. Et c'est ça que l'apôtre et aussi Jude veulent nous montrer. Pour être adapté ou être capable à un tel combat, et c'est ici, cet événement de sport, il faut renoncer à beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes pour gagner cette lutte, n'est-ce pas? Et il nous appelle à le faire. Il dit, par des autres paroles, la foi n'est pas une promenade ou une randonnée. La foi est une lutte. pour laquelle on a besoin de l'énergie, pas une lutte contre des personnes, mais une lutte de tenir ferme, c'est déjà difficile. Mais aussi de lutter pour la paix. Et quand on est attaqué, quand quelqu'un dit « mais pourquoi crois-tu ça ?», on doit être à même pour répondre et dire « je tiens ferme ce que tu ne veux pas accepter », comme le Seigneur l'a fait dans le cas des séductions de Satan. Il a toujours dit, il est écrit, notre Seigneur, en tant qu'homme, connaissait la parole de Dieu, sa propre parole, pour ainsi dire. Donc cette lutte n'est pas expliquée en détail, mais il faut combattre pour la foi qui a été une fois enseignée au sein. La foi, c'est en principe la même chose que le commun salut. Le commun salut est la totalité de tous ces aspects de la vérité qui concernent notre salut, commun salut, parce que nous avons tous le même salut. Il n'y a pas différents saluts, il n'y a pas différents seigneurs, il y a un seigneur, un Dieu, un seigneur, une foi, un baptême et un corps. Ça, c'est le commun salut. Et maintenant, ce salut a été donné à nous une fois pour toutes. Par la parole. D'abord, par l'enseignement des apôtres, qui avaient la doctrine de Christ, la doctrine des apôtres, dans laquelle déjà les premiers chrétiens persévérait, n'est-ce pas, acte 2, verset 42, un verset très pratique et très important. Il persévérait dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient, ils avaient justement commencé à croire. Et directement, il est dit, ils persévéraient. On dirait, persévérer. Ça se fait après plus ou moins longtemps, persévérer. Il commençait directement. C'est-à-dire, il ne voulait pas se laisser dérober ces précieuses choses que Dieu leur avait confiées sans avoir encore la parole. C'était la doctrine des apôtres au début de l'Église, au deuxième chapitre des Actes. Et cette foi a été une fois délivrée aux saints, et pas plusieurs fois. Il y a une vérité. Cette vérité ne se diminue pas, et cette vérité ne peut pas être étendue. C'est une vérité que nous avons dans la parole, et seulement dans la parole. Et c'est pourquoi, chers amis, spécialement les jeunes, il est tellement important d'étudier la parole afin qu'on puisse connaître ce salut, afin qu'on puisse apprécier ces trésors et afin qu'on puisse avoir du courage de lutter pour cette foi. Spécialement dans les églises protestantes, on a déjà, en Allemagne au moins, on a déjà abandonné toutes les vérités fondamentales du christianisme. On n'accepte plus, parmi les chefs de cette église et dans les universités, la naissance du Seigneur comme homme. On n'accepte plus la résurrection du Seigneur Jésus. On n'accepte plus que le sang du Christ était nécessaire de couler pour le pardon de nos péchés. Et qui, ces trois, et on pourrait ajouter beaucoup d'autres choses, ne sont plus tenus fermes, ils sont dédaignés, méprisés. Il n'y a plus de vraie foi chrétienne. Ça, c'est notre entourement. Je ne sais pas exactement comment ça a été, parce qu'ici, naturellement, les églises protestantes sont dans un différent état, mais la doctrine pénètre partout. Et c'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller sur la rue pour protester et dire « nous tenons ferme ces vérités ». mais il faut le faire dans sa vie, dans son cœur, dans sa vie, dans les assemblées, et là où on est pour propager l'Évangile, n'est-ce pas? Pour cette foi qui a été une fois enseignée aux saints. Et maintenant, les dangers, le premier danger nous est mentionné, et c'est où la caractérisation générale de ces mots qui se sont glissés, caractérisés par la deuxième moitié du verset 4. Dans le verset 4, car certains hommes, il s'agit d'ici des incrédules, ils ne sont pas des croyants, se sont glissés parmi les fidèles. C'est-à-dire, ces attaques ne se font pas de la manière nous sommes contre tout ce que vous croyez. Ils se sont glissés. Ils le font comme le serpent l'a fait avec les deux premiers couples. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Semer les doutes. Ça, c'est la manière par laquelle l'ennemi glisse des hommes parmi les croyants qui ne croient rien et qui se glissent parmi les croyants en disant, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que la parole est vraiment véritable et fiable? Et ces hommes se sont glissés parmi les croyants, inscrits jadis à l'avance par ce jugement. Cela, de nous, on peut dire que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Mais ici, la parole ne parle pas comme ça. Elle ne parle pas d'une éternité. Jadis n'est pas l'éternité. Jadis, ça veut seulement dire que Dieu a déjà un jugement pour ces personnes avant qu'ils se soient levés. Le jugement de ces personnes était dans le cœur de Dieu, pas la condamnation de ces personnes, parce qu'ils seront jugés selon leurs actes, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse 20, c'est dit. Mais le jugement de Dieu concernant ces actes d'impiété était longtemps clair. Pensez seulement à Sodom. Dieu a démontré que l'impiété sera jugée. Et ça, c'est le sens de ce verset, qu'ils étaient déjà inscrits, pas de l'éternité, mais par le jugement de Dieu qui a, dès le début, laissé sans aucun doute qu'il jugerait l'impiété des pécheurs. Et ça, c'est la signification, non la prédestination des pécheurs pour l'enfer. Inscrit jadis à l'avance pour ce jugement des impies. Et maintenant, le caractère de ces personnes est révélé, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les deux caractéristiques très importantes à connaître, pas pour nous très importantes, au contraire. Mais la première est qu'il change la grâce de Dieu en dissolution. Qu'est-ce que cela veut dire? Changer la grâce de Dieu en dissolution veut dire, en simples expressions, que quelqu'un dit, mais nous ne sommes plus sous la loi. La loi a commandé, et si on ne faisait pas, on était désobéissant. La grâce est l'amour de Dieu. Elle nous permet tout. Il n'y a pas de punition parce que nous avons été sauvés. Et maintenant, j'espère que personne ne parle comme ça, mais les pensées et le comportement laissent juger que ça existe. On fait ce qu'on veut et on dit, mais je suis chrétien, je possède le salut, je suis racheté, donc je suis sous la grâce, pas de commandement, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est le changement de la grâce de Dieu en dissolution. Un exemple, aussi de l'église protestante en Allemagne, les chefs de cette église disent on peut marier, on peut conclure un mariage entre deux homosexuels. C'est même la parole de Dieu qui nous le dit. Mais pourquoi? Mais Dieu est un Dieu d'amour. Ce sont les arguments, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi il ne peut pas juger quelqu'un, un couple homosexuel qui s'aime, n'est-ce pas? Et les églises, maintenant en Allemagne, par la loi, c'est permis le mariage des homosexuels est permis, mais c'était les églises qui ont été les précurseurs dans cette. Ils ont déjà fait a conclu des mariages cléricales dans les ecclésiastiques longtemps avant que l'État l'ait fait. Ils étaient des précurseurs de cette dissolution. On prend la grâce pour excuse pour faire ce qu'on veut. Et c'est un danger. Et on voit que ce n'est pas un danger pour un incrédule qui est perdu éternellement, mais c'est aussi un danger qui ne l'aurait pas jamais pensé. Nous sommes sous la grâce. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas juste, mais ce n'est pas grave. Vous voyez? Et c'est pourquoi cette épître a aussi une voix pour nous. Ici, nous sommes décrites des personnes qui sont éternellement perdues et qui se sont glissées au milieu des vrais croyants. Et le danger existe que les croyants pensent, mais ce n'est pas tout à fait faux, parce que si Dieu est un Dieu d'amour, il y a je ne sais pas combien de vrais chrétiens en Allemagne, je ne peux pas juger ici, n'ont plus rien contre cette union d'homosexuels, n'est-ce pas? Bien que la parole parle, non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi, vous lisez seulement le Nouveau Testament romain 1, n'est-ce pas? Ce sont des questions dont on n'osait pas aborder il y a quelques décennies, mais maintenant, nous sommes entourés de ces choses. Et il faut savoir ce que la parole en dit, n'est-ce pas? Lisez, on n'a pas le temps et on ne veut pas le faire, lisez Romains 1 concernant le jugement de Dieu quant à l'homosexualité. Mais on dit Dieu est un Dieu d'amour. C'est changeant la parole, l'utilisant de la parole pour changer la grâce en dissolution. Ça, c'est la première chose, la dissolution, une vie comme la chair nous le dicte. Et la deuxième chose est le reniement de l'autorité du Seigneur Jésus. Ça, c'est la deuxième chose. Ce sont les caractères de toute apostasie qui, à la fin, on ne reconnaît non seulement pas l'autorité du Seigneur, mais le Seigneur lui-même, n'est-ce pas? Et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est le caractère de ces impies, de ces incrédules. Mes chers amis, quand je dis, en relation avec ce qu'on a juste vu justement, le Seigneur est mon Seigneur, il est mon Sauveur, mais il n'exige jamais quelque chose que je ne désire, que ma chair ne désire pas. Donc je fais ce que je veux. Alors je renie mon maître. J'agis d'une manière qui est en contraste, en contradiction avec la parole du Seigneur Jésus. Et dans un certain sens, je renie mon maître. Ce n'est pas seulement de dire comme Pierre le faisait quand il était dans la cour de dans la nuit où le Seigneur fut condamné à mort par les Juifs et les Romains. Il a renié quand on lui a demandé « Est-ce que tu as un des disciples ?» Non ! Ce n'est pas seulement ça. Je peux renier mon Seigneur en agissant d'une manière qui est contre sa volonté. On voit que ces deux choses vont très étroitement ensemble, n'est-ce pas la dissolution, le changement de la grâce en dissolution, faire sa propre volonté, mais le reniement du Seigneur, c'est aussi mettre ma propre volonté dans la première place. Et chers amis, je crois que pour conclure, que le manque de la connaissance de l'Écriture. On voit combien nécessaire ça est. Et la cultivation de la volonté propre. Je veux, j'aime, je désire, je préfère. C'est pas notre vie, chers amis. C'est toujours, comme le Seigneur l'a dit à Gethsémané, non ma volonté, mais la tienne soit faite, soit accomplie. Ça, c'est la prière d'un chrétien. Dans le cas du Seigneur, il n'y avait pas de propre volonté. Il n'y avait pas une chair qui était contre la volonté de Dieu. Mais nous en avons. Notre chair peut être tellement puissante qu'elle peut mettre de côté tout ce que Dieu nous dit et nous dire, mais ça c'est la vraie liberté. Mais cette pensée nous conduit de nouveau sous les chaînes de Satan. Il n'est pas question d'être perdu, il est question de mener une vie qui est sous le dictat de Satan, au lieu d'être sous la volonté, la bonne volonté et notre tendre Seigneur. Le temps nous a progressé. Je finis maintenant et espère que nous pouvons finir cet épître avec des exhortations positives que nous trouvons, Dieu voulant, demain.